Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, parce que c'est l'heure du podcast des maternelles, podcast France Télé bien sûr. Et dans le podcast des maternelles, devinez de quoi on va parler aujourd'hui, on va parler de ces femmes qui regrettent d'être devenues mères, sujet tabou évidemment. Évidemment que c'est un sujet tabou, et pourtant ça concerne plus de monde qu'il n'y paraît, alors c'est pas non plus une vague hein. Il n'y a pas non plus une mère sur deux qui regrette d'être venue maman, mais quand même, on lit de plus en plus de témoignages, des livres qui sortent sur le sujet. Et donc aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage d'Anne-Sophie, Anne-Sophie qui est concernée par la chose, et puis nous serons avec une psy, Sophie Marinopoulos, qui nous aidera à comprendre comment on peut en arriver à regretter sa maternité. C'est parti.
Alors il y a 7 ans, il y a un livre choc qui a été publié en Israël, qui a été écrit par la sociologue Orna Donat, et ça s'appelle « Le regret d'être mère ». Et puis depuis, petit à petit, en France, comme ailleurs d'ailleurs, les femmes osent enfin le dire. Elles aiment leurs enfants, ça ok, mais si c'était à refaire, elles ne le referaient pas. Voilà. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maman d'Ella qui a 4 ans, et vous faites partie de ces femmes courageuses qui ont décidé de briser ce tabou. Alors c'est très important parce que ça permet à toutes les femmes qui ressentent ça et qui en ont honte de pouvoir le dire. Parce qu'encore une fois, et on le dit d'ores et déjà, ce n'est pas une question d'amour ou d'attachement à son enfant, ça n'a rien à voir. Et je dis aussi que comme ce sont des sujets qui sont clivants, qu'il y a beaucoup de mamans qui nous regardent, etc., vous ne déchaînez pas sur les réseaux. Vraiment ici, on est bienveillants. Voilà. Donc pitié, que vous nous nourrissiez, que vous posiez des questions, que vous vous intéressiez, super, mais restez bienveillants, merci. Alors, on va revenir sur votre histoire, Anne-Sophie. À 19 ans, vous avez rencontré Walid. C'était votre colocataire. Vous tombez amoureux. Mm-hmm. Ensemble, vous quittez la Picardie. Vous allez vous installer au soleil de Marseille. Mais au bout de 7 ans, on va dire que votre relation s'essouffle un petit peu. Vous parlez de faire une pause. Et puis finalement, vous vous dites, bon, on va quand même se donner une chance. On va fonder une famille. Et puis, vous tombez enceinte. Vous avez 27 ans. Comment est-ce que vous accueillez déjà la nouvelle de cette grossesse? Et comment vous la vivez?
Alors, on a été très surpris puisque 15 jours après l'arrêt de la pilule, je suis déjà enceinte. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide puisque Walid a eu un lymphome à l'âge de 4 ans avec une récidive qui aurait dû faire en sorte qu'il soit stérile.
À cause des traitements, vous avez dit, bon, ça va être compliqué de faire des enfants. Exactement. Alors, vous avez eu une grossesse normale, vous ne posiez pas trop de questions?
Grossesse magique. Ouais. j'ai adoré ces 9 mois, pas de symptômes, tout se passait bien. Ça redynamisait notre couple, nouveau projet, nouvel appartement.
Oui, donc c'était plutôt un très bon souvenir.
Exactement.
L'accouchement classique aussi, c'est très bien passé.
Accouchement classique, je me suis endormie, on est venu me chercher pour accoucher.
Oh là là, le rêve, ce que vous décrivez.
Parfait.
Alors vous êtes restée 5 jours à la maternité, un petit peu plus long que d'habitude, parce que Ella prenait pas de poids. Après, on vous a évidemment laissé rentrer chez vous. Parce que c'est vrai qu'on a, enfin, vous n'aviez pas très envie de rester enfermée dans la chambre de maternité, ce qu'on comprend. Comment s'est passé le retour à la maison ?
Retour à la maison, très compliqué, puisque Ella ne dormait pas beaucoup, elle pleurait énormément, et on avait du coup un suivi journalier de la pédiatre concernant sa non-prise de poids. Un matin, on nous dit qu'il faut partir aux urgences, puisqu'il y a des petites taches de sang dans sa couche, et donc là, elle est hospitalisée pendant 3 jours avec une suspicion d'infection ou de malformation. Donc, très compliqué.
Donc, ça a été chaotique quand même, hein, les premiers jours d'Ella. Walid s'en occupait beaucoup, mais en même temps, il y avait sa maman qui était là.
Exactement.
Donc, c'était quand même vous qui aviez la charge.
Il devait se partager entre Ella et moi et sa maman qui venait de Tunis.
Alors, comment ça s'est poursuivi, votre congé maternité? Qu'est-ce que vous diriez du lien que vous aviez avec votre fille?
Alors, dès le départ, finalement, cette non-prise de poids était due à un allaitement qui était raté. Donc, premier échec, et j'arrive pas à allaiter ma fille. Ce qui a été très compliqué. Ensuite, congé maternité, elle prend le biberon. En soi, tout va bien, mais je rentre dans une routine où tous les matins, à la même heure, je prends ma douche, on fait la promenade au même endroit. Walid essaie de se partager entre son travail et nous.
Vous vous ennuyez, quoi?
Je m'ennuie. Grosse routine, grosse.
Et au niveau du lien, qu'est-ce que vous ressentez pour votre fille à ce moment-là?
Alors, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais je fais tout machinalement. C'est-à-dire qu'il faut l'habiller, il faut la nourrir, il faut la sortir, mais sans forcément prendre de plaisir à ce que je fais.
Alors après, vous avez repris le travail, 6 mois après, un peu contrainte et forcée. Comment est-ce que vous avez vécu cette reprise? Et du coup, c'était une libération ou ou quand même vous avez...
J'ai eu un peu de mal au départ. J'ai démissionné au bout de quelques semaines pour changer de bureau. Et dans ce nouveau bureau, j'ai rencontré de nouvelles personnes. De nouvelles personnes très, très solaires qui m'ont fait sortir beaucoup.
Donc vous rentriez tard à la maison ?
Je rentrais tard à la maison. Donc c'est Walid qui a finalement pris le boulot de papa quasiment à plein temps.
Et vous étiez heureuse comme ça ?
Et moi, j'étais très bien comme ça.
Vous avez l'impression que vous avez récupéré votre vie de femme ? Vous répanouissiez ?
Exactement.
Alors, vous êtes même allée jusqu'à dire à votre conjoint que vous regrettez. Oui. Ça, c'est vraiment, je dirais, le premier coming out, entre guillemets. Qu'est-ce que vous regrettez, au fond ?
Ce que je regrette, ce n'est pas la vie que je pouvais avoir avant, mais c'est la vie que je pourrais avoir après. C'est-à-dire que Ella est un peu un frein. Je considérais à cette époque qu'Ella était un frein à ma vie, qu'elle m'empêchait de voyager, de sortir. Vous savez, quand on a des enfants, on se dit, ah ben non, si je pars en vacances, il faut préparer la grosse valise, il faut préparer les vaccins, il faut préparer les biberons. Et du coup, on se freinait sur toutes sortes d'activités.
Pour vous, c'était quoi, Anne-Sophie ? C'était une entrave à votre liberté, cet enfant ?
C'est exactement ça.
C'était ça. Alors, ça a eu des répercussions dans votre couple ?
Oui.
Vous êtes redevenu colocataire, au fond ?
On est redevenu colocataire.
Alors, Ella, 2 ans et demi, vous vous séparez, à ce moment-là, de Walid. On est début mars 2020, 10 jours avant le premier confinement. Crise sanitaire, vous décidez de rester dans le même logement tous les deux. En septembre 2020, Walid et vous prenez chacun un appartement. Vous convenez d'une garde alternée pour Ella, c'est-à-dire qu'il y a une semaine chez vous, une semaine chez Walid. Et puis finalement, c'est la première fois que vous devez la gérer toute seule, parce qu'une fois que vous avez repris le boulot, vous étiez, vous rentriez tard pour le dernier bibon du soir. Vous aviez un petit peu que les meilleurs moments. Comment ça se passait alors cette semaine avec elle ?
Alors, le premier soir que j'ai passé sans elle, bizarrement, j'étais un peu frustrée parce qu'elle me manquait. Mais ce qui me manquait, c'était le côté plaisir et pas forcément le côté devoir prendre la douche, lui préparer à manger, la préparer pour l'école. Ensuite, arrive vraiment la semaine. Donc, vendredi matin, avant de la récupérer le soir à l'école, c'était catastrophique. Je me posais la question, je m'angoissais à me dire mais qu'est-ce qu'on va faire tout un week-end en tête-à-tête toutes les deux. Et arrivé le mardi soir, je calculais le nombre de nuits qui me restaient avant... De la dropper chez son père.
Et elle l'a senti, évidemment, Ella, au bout d'un moment.
Oui, et Ella ne refusait de venir chez moi. Ce n'était pas sa maison. Sa maison, c'était la maison de papa. Et donc, on était toutes les deux dans la même position. C'est qu'on était obligés de passer du temps ensemble.
Elle vous en a parlé ?
Elle m'en a parlé. J'ai la chance qu'Ella ait parlé très jeune. Donc, on avait des conversations assez poussées. Et oui, tout simplement, elle me réclamait son papa en visio et devant le téléphone en visio, elle pleurait. Elle disait « Papa, viens me chercher !»
Et elle vous a même demandé un jour « Mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les enfants, maman ? Pourquoi est-ce que tu en as fait si tu n'aimes pas les enfants ?»
Exactement. Alors là, quand votre enfant de 3 ans vous dit « Pourquoi tu as voulu un enfant alors que tu n'aimes pas les enfants ?» C'est une grosse remise en question.
Ça vous a blessé ?
Ça m'a blessé. Je n'ai pas su quoi lui répondre.
Vous n'avez rien répondu ?
Non.
D'où venait ce regret ? Alors, quand on a préparé l'émission, vous avez parlé de quelque chose qui va, je pense, parler à toutes les femmes qui nous regardent. C'est ces espèces de modèles Instagram, quoi. Ces mères parfaites. Est-ce que ce problème de regret, il est lié au fait que vous aviez mis la barre trop haut, à votre avis ?
J'imagine que c'est ça. Je regardais, en étant enceinte, beaucoup d'émissions, beaucoup de comptes Instagram, Facebook, avec des mamans parfaites, activités Montessori, les sorties pour les enfants. Et je me suis rendu compte que moi, ça ne me plaisait absolument pas. Que je vais être devant un atelier, et je ne sais pas quoi faire de ma paire de ciseaux, d'une feuille.
Oui, c'est ça.
Je suis incapable de faire.
Vous ne vous retrouviez pas dans les mères, dans les modèles qu'il y avait autour de vous, sachant que ce sont évidemment des modèles biaisés, mais enfin ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Mais c'est important de le dire, parce que quand on voit les conséquences que ça peut avoir effectivement sur certaines mères, qui du coup n'arrivent pas à trouver leur façon propre d'être mère. Alors du coup, vous avez réorganisé la garde alternée. Elle allait 2 semaines chez son papa et plus qu'une semaine chez vous. Est-ce que ça vous allait ? Ça a bien évolué ?
Alors, ça n'a pas duré longtemps, puisque son papa a été hospitalisé très rapidement après ce changement de garde. Donc, je me suis retrouvée finalement avec Ella chez moi pendant 1 mois et demi. Donc là, c'était le premier grand saut dans le vide, avec le stress du papa hospitalisé, devoir s'occuper d'Ella, de l'école, devoir tout gérer.
Mais ça s'est plutôt bien passé, en fait. C'était dur ?
C'était dur. C'était dur, j'ai enchaîné accident de voiture, chute dans les escaliers, grosse fatigue. Ouais.
Alors malheureusement, c'est terrible. 2 mois après le diagnostic de cardiomyopathie, c'est la raison pour laquelle Walid avait été hospitalisé. Et malgré une opération en urgence, Walid, le papa d'Ella, est décédé en mai 2021. Alors évidemment, bah, par la force des choses, Ella, elle a 4 ans et maintenant elle est avec vous. Comment ça s'est passé au début? Parce que enfin, là, j'imagine comme ça a dû être dur. Il y avait le deuil à gérer et puis il y avait toujours le même problème.
Exactement. Alors au début, c'était relativement facile puisqu'il y avait énormément de monde à la maison, la famille qui venait s'occuper de nous, qui s'occupait d'Ella. Donc c'était assez simple. Et ensuite, petit à petit, les gens sont partis et l'été, on s'est retrouvés en tête à tête toutes les deux, donc avec le deuil d'Ella qui ne comprenait pas à son âge le concept de la mort. Mmh. Il a fallu lui expliquer. Elle avait des séances de psy toutes les semaines. Et petit à petit, on s'est...
Vous avez réussi à vous apprivoiser un petit peu.
Exactement.
Alors, vous en êtes où aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé?
Alors, ce qui a changé, c'est probablement un peu plus de maturité avec toutes les épreuves qu'on a passées ces derniers mois. Et là, aujourd'hui, c'est mon pilier. C'est ma raison de me réveiller le matin pour aller travailler. Comme elle me dit, il faut travailler pour m'acheter des cadeaux. De partir en vacances aussi. Donc, on a toujours notre petit sac de voyage prêt. Et à tout moment, on est dans un train ou dans un avion.
Vous avez trouvé votre façon à vous d'être mère?
Exactement. Alors, ce n'est plus une façon qu'on peut lire dans les livres, qu'on peut voir sur les comptes Instagram ou ce que peuvent nous dire nos propres mamans à nous qui, n'oublions pas, ont eu des enfants le siècle dernier. c'est une adaptation. Si Ella veut aller voir la Tour Eiffel, le lendemain, on est dans le train, on part voir la Tour Eiffel. Elle veut faire un bonhomme de neige, on part à la montagne, on fait un bonhomme de neige tout de suite. L'école, c'est vrai que c'est indispensable, mais l'école de la vie, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal. Donc, vous avez trouvé, en fait, votre créneau, quoi.
Exactement, sans contrainte.
Est-ce que vous pourriez envisager d'avoir un autre enfant aujourd'hui?
Alors, il y a un an, vous m'auriez posé la question, c'était hors de question. Je voulais me faire ligaturer les trompes. Le seul inconvénient, c'est que ça faisait très mal. Donc, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, oui, pourquoi pas.
Et Sophie Marinopoulos est avec nous. Bonjour Sophie, merci Bonjour. D'être sur ce plateau. Vous êtes psychologue et psychanalyste, fondatrice des pâtes au beurre. On adore les pâtes au beurre au sens propre, comme votre association. Lespâtesaubeurre.fr, ce sont des lieux d'accueil d'écoute. Mais j'arrive pas. Là, tout à coup, je suis perturbée par ce témoignage. Des lieux d'accueil et d'écoute, tout simplement, gratuits pour les parents. Et justement, ces parents, ces mères qui n'arrivent pas à créer le lien, etc., peuvent aller chez vous pour justement se confier, donc c'est formidable. Vous êtes aussi expert de la commission des 1000 jours et auteur du bouquin « Écoutez-moi grandir », c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, on l'a vu avec Anne-Sophie, les premières années, elle a regretté d'avoir un enfant, hein, tout simplement. Et puis aujourd'hui, 4 ans après, finalement, c'est une mère épanouie parce qu'elle s'est trouvée. Ça veut dire que ce regret maternel, qui est finalement pas si rare, il peut évoluer.
Oui, alors ce témoignage, il est formidable. Elle est formidable, Anne-Sophie, d'abord parce qu'en effet, elle lève un tabou. Elle arrive à dire et à mettre des mots simples sur ce qu'elle a ressenti dans la naissance de son enfant, cette espèce de débordement, une espèce de désillusion aussi. Elle s'était fait des tas d'images.
C'est ça.
Elle avait construit une maternité qui n'existe pas, il faut le dire quand même. Hein. Cette idéalisation.
Oui, la mère Instagram, c'est
elle n'existe pas.
C'est un conte, en fait. C'est
voilà,
pas la
donc
réalité.
Ça fait partie de notre modernité. C'est-à-dire, on met à mal les mères. Et on voit qu'il va leur falloir toutes des ressources, en fait, internes, pour arriver à se dégager de ce modèle et de trouver sa propre maternité. Ce que vous lui avez dit, finalement, elle a construit sa façon à elle d'être mère. Et ça, c'est le message pour toutes les femmes, hein, de manière à ce qu'elles puissent supporter les moments d'ambivalence, les moments de doute, les moments où elles pensent qu'on ne les entend pas suffisamment, et ça, c'est une réalité. On a envie d'entendre que des jolies histoires. Mais dans la jolie histoire, il y a des mouvements, il y a des besoins de se transformer. Et ça prend du temps, plus ou moins de temps. C'est jamais la même temporalité d'une femme à l'autre.
Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier la personnalité qu'on a, la femme qu'on est et ce dont on a besoin aussi.
Exactement. Il faut que la femme puisse continuer à se réaliser tout en étant mère. Et ça, dans une société actuelle, c'est très difficile.
Le
Le témoignage d'Anne-Sophie a suscité beaucoup de réactions. Il y en a qui sont passées en bas de l'écran. Et on a reçu notamment une question en vidéo de Nathanaël, qui connaît ce sentiment de regret de maternité. Elle a une question, on l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Nathanaël. J'ai deux petits monstres de 6 et 7 ans. Et aujourd'hui, clairement, si c'était à refaire, je le ferais pas. Sauf que voilà, effectivement, le regret d'être mère est un sujet encore un petit peu, même beaucoup tabou. Et je tiens surtout à préciser que c'est pas parce qu'on regrette d'être maman qu'on n'aime pas ses enfants. C'est vraiment deux choses différentes. Et par contre, je voudrais savoir qu'est-ce qui peut expliquer ce regret.
C'est extrêmement courageux, hein, tous ces témoignages-là ce matin, quand même.
C'est courageux et moi, je vais vous dire, ça fait du bien. Ouais. Parce qu'on a besoin de les entendre. Ce serait intéressant de l'entendre dans 2 ans, avec ses deux petits monstres. On verra comment elle aussi, avec sa temporalité, avec ses ressources, avec sa capacité à dépasser ce qu'elle vit aujourd'hui, comment elle va tracer son chemin de mère. Et c'est important qu'elle nous redise que ça n'a rien à voir avec l'amour que l'on porte à ses enfants. C'est deux choses totalement différentes. Il y a notre statut, je dis notre en tant que femme, notre statut de mère, et puis il y a en effet l'enfant qui est protégé aussi. C'est deux choses différentes.
C'est ça.
Une question de Blanche. Dans des moments de tension, il peut nous arriver de dire des mots à nos enfants qui dépassent notre pensée. Quelles conséquences sur la construction de l'enfant ?
Oui, alors, on parle très souvent de « mon Dieu, j'ai dit une horreur à mon enfant, il va être traumatisé ». Il faut arrêter avec ça. Dire des choses horribles à son enfant, je ne vais pas vous dire que c'est bien, au contraire, mais par contre, il faut savoir aussi aller dire à l'enfant « t'as vu, maman était en colère, elle a dit n'importe quoi ». Les enfants, ils comprennent très très bien les colères, parce que ça les envahit eux aussi.
Ça leur parle.
Et ça leur parle, et ils savent que la colère, eh ben, elle ne s'est pas bien parlée. Donc un enfant, il ne faut pas oublier que sa temporalité, il vit dans l'instant. Donc c'est très important d'aller le revoir et lui dire « je suis désolée, vraiment, c'est n'importe quoi ». Et puis voilà, on se fait un gros câlin. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'enfant seul avec des mots qui ont pu le blesser. Ce n'est pas traumatique, mais c'est blessant. Et on laisse pas un tout petit avec ces blessures de mots, en fait.
Bien sûr. Kitri vous demande comment peut se manifester le regret.
Le sentiment de ne pas être à la bonne place, que ce n'est pas le bon moment, des sentiments contradictoires qui envahissent. J'ai envie, je n'ai pas envie, je me demande ce que je fais là. Je me demande comment je vais trouver ma voix, je me demande à qui je vais pouvoir en parler. Qui va m'entendre
seule.
Il y a des sentiments de solitude. Alors, c'est quelque chose. Et le sentiment de solitude, c'est terrible parce que c'est être seul dans la foule. Ouais. C'est-à-dire, j'ai plein de monde autour de moi, mais je ne trouve pas l'interlocuteur qui est capable d'entendre autre chose que ce qu'il veut entendre, à savoir, je vais très bien avec mon enfant.
Bien sûr. Je viens de voir passer là un message. Si ma mère m'avait dit qu'elle avait regretté de m'avoir eue, ça m'aurait profondément blessée. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut à tout prix cacher à son enfant ?
C'est pas la question de cacher ou pas cacher. Je pense qu'il y a un moment où la mère en question va éprouver le besoin de dire et de partager. Et la question du partage, elle est nécessaire dans des vies familiales. On ne peut pas comme ça garder. Ce n'est pas parce qu'on a regretté et ce n'est pas parce qu'elle aurait été blessée qu'ensemble, elles n'auraient pas surmonté, mère-fille, cette révélation. Là encore, on est dans l'idéalisation, comme si une histoire familiale, il faut que tout soit beau, qu'on dise toujours des belles choses, qu'on soit toujours de bonne humeur et qu'il n'y ait jamais, jamais de contradiction. Et ça, ce n'est pas des histoires qui existent.
Oui. Et d'ailleurs, on dit beaucoup de femmes, et pour les hommes, qu'en est-il ?
C'est très bonne question.
Moins tabou, non ?
C'est tout aussi tabou. Et ils ont aussi les mêmes difficultés, les mêmes besoins d'aller puiser dans leurs ressources, les mêmes constructions. Certains vont fuir. On connaît ça. Hein. C'est fuite en avant, fuir dans le travail, fuir en partant
fuir
définitivement,
tout court, ouais.
Fuir tout court. Donc oui, tout à fait.
Mais ça se joue différemment.
Ça se joue différemment parce qu'évidemment, la construction n'est pas tout à fait la même. Mais pour autant, les angoisses qui y sont liées, les sentiments de ne pas être à la hauteur, d'avoir fait le mauvais choix, de ne pas l'avoir fait au bon moment, peut-être pas avec la bonne personne. Enfin, vous voyez, tout ce qui va créer ces espèces de mouvements psychiques qui peuvent d'ailleurs devenir intolérables au bout d'un moment. C'est aussi pour ça qu'on a des passages à l'acte. Hein. Le passage à l'acte, c'est le moment où on n'arrive plus à penser, on agit. Et dans les passages à l'acte, il y a la fuite, le départ, l'abandon.
Alors justement, Eugénie vous dit « Beaucoup de femmes regrettent ou ont regretté d'avoir fait des enfants et se heurtent à des réactions violentes. Pourquoi ce regret reste inaudible pour beaucoup ?»
Mais plus on avance, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans les années, là, maintenant, plus on idéalise cet enfant qui est devenu rare. Et puis aussi le fait qu'il y a cette idée qu'on a offert aux femmes la possibilité d'avoir leur enfant quand elles le désiraient. Donc on conscientise tout. Le psychisme n'existe plus, l'inconscient n'existe plus, on ne veut même pas en entendre parler. Donc si elles ont un enfant, c'est qu'elles ont choisi d'en avoir un, à la bonne heure, au bon moment. Donc pourquoi se plaindrait-elle ? C'est quand même fort de café, comme l'expression populaire. Voilà, donc il y a quelque chose d'un inentendable. C'est pour ça que, à la fois, cette émission, elle va soutenir les mères. Elles vont s'autoriser à dire les choses, parce que quand on garde pour soi, on s'isole, on vit difficilement, et du coup, ça vient entacher à la fois sa vie personnelle et la vie de sa famille, de sa propre famille. Donc c'est très important de pouvoir... ici en parler, et aussi elles vont prendre appui sur les paroles qu'on va partager nous ensemble quand elles seront attaquées sur les réseaux sociaux, parce qu'elles seront attaquées sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'aime pas de toucher au mythe, il ne faut pas toucher au mythe, et en particulier quand ça parle des femmes. Il y a des mythes autour des femmes et on est prié de ne pas les approcher.
Bah, notamment le mythe de l'instinct maternel, quoi. Ça fait quand même aussi peu de temps qu'on ose enfin dire que l'instinct maternel n'existe pas.
Oui, alors peu de temps. Bon, ça fait, j'ai dû faire à peu près 20 livres sur le sujet, mais vous avez raison, on ne m'écoute pas. Mais c'est
voilà,
pas grave,
c'est ça. En tout cas, c'est pas rentré encore dans la tête des gens.
Vous avez raison. C'est-à-dire et j'en parle souvent parce que les femmes en maternité, elles nous disent, j'ai pas eu le déclic. Le déclic, c'est en effet le petit truc là, la petite graine d'instinct maternel qui fait, ça y est, tac, l'enfant est là, je suis bien, je suis heureuse, je sais exactement ce qu'il veut, je le comprends, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mon être. Ben, ça n'existe pas.
Oui, c'est ça, j'allais vous dire, ça existe, parce que là...
Oui, dans les séries américaines.
C'est ça, moi j'attends, là.
Ça dépend. C'est une construction, donc il faut dire et redire que c'est une construction. Ça fait partie des épreuves de la vie, de devenir parent, devenir mère et de devenir père, c'est vrai, merci de l'avoir rappelé. C'est une construction. Et cette construction, elle prend du temps. Nous sommes tous différents, c'est très différent d'une personne à l'autre. Et une société moderne, c'est une société qui sait accueillir cette temporalité psychique de chacun et qui sait l'entendre et la recevoir. Sinon, il y a des drames.
Bien sûr.
Est-ce qu'il existe des lieux où des mamans, justement, peuvent s'exprimer
Alors, les pâtes au beurre, il y en a d'autres, mais les pâtes au beurre, j'ai créé ça, en effet, il y a maintenant plus de 20 ans, pour que les pères et les mères puissent venir avec ou sans leur enfant, sans aucune limite d'âge, c'est gratuit, c'est anonyme, vous n'avez pas besoin de dire qui vous êtes. Et on est dans une cuisine, c'est-à-dire que c'est des psys qui ont troqué leur cabinet contre des cuisines. Nous sommes dans la cuisine et nous partageons, c'est très symbolique, évidemment une collation, un repas, et en même temps, les préoccupations en disant « vous n'êtes pas seul, on est là ». Quoi qu'il arrive, on est là. Et ce sont des lieux où les parents, on va être collectif. Donc c'est aussi important pour les mères d'entendre d'autres mères ou pour des pères d'entendre des mères qui regrettent, par exemple. Oui. Que ça puisse être reçu pour qu'on puisse le transformer. C'est la question de la transformation. Comment on transforme ces éprouvés personnels ?
Lola nous dit, Anna Roy, dit que le postpartum dure 3 ans. Cette femme n'a-t-elle pas fait une énorme dépression du postpartum ? Cette femme, c'est Anne-Sophie qui était là tout à l'heure.
Oui, alors, c'est le postpartum dure 3 ans. Elle n'avait pas l'air dépressive. Je ne sais pas. Bon, je ne connais pas cette construction. Le postpartum, là encore, on est dans des choses très singulières.
Le postpartum me concernant dure 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il dure, donc personnellement.
Non, ce que Anna Roy dit, c'est que le chamboulement est tellement important qu'il faut compter 3 ans avant de
s'en remettre. Il faut arrêter de dire que ça dure 2 mois.
Le chamboulement est en effet très, très, très long pour retomber sur ses pieds, pour pouvoir repartir en se sentant bien dans sa vie. Cette femme n'a pas fait... de postpartum, en tous les cas, on ne peut pas se permettre de poser un diagnostic sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais elle a éprouvé du mal-être, et ça, on doit être capable de l'accepter. Et que ce mal-être, ça s'est appelé dans son vocabulaire, dans son expression, le regret. On peut parler de désillusion aussi. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, elle nous a proposé cette désillusion en disant la maternité, la grossesse a été formidable, elle a été super bien. Et quand l'enfant était là, elle s'est sentie envahie, débordée. Elle a eu le sentiment qu'elle n'allait pas y arriver. Elle s'est dit, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Là, on a vraiment entendu sa part très, très singulière. Ça ne s'appelle pas le postpartum. Le postpartum, c'est beaucoup plus complexe. Et ça nous inquiète énormément, les situations.
Non, mais on sentait surtout que dès qu'elle retrouvait sa vie de femme, sa vie d'avant, Elle était totalement épanouie. Donc, en fait, elle n'avait pas l'air d'être en dépression, en tout cas. C'est juste
elle n'était pas en dépression. Elle se sentait coupable. Hein. Il y avait des sentiments qui l'a traversée. Mais ce qui a été très intéressant dans son témoignage, c'est qu'elle a parfaitement bien expliqué que l'équilibre psychique, c'est savoir reconnaître ses faiblesses. Et ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire être capable de dire, je peux m'occuper de ma fille, mais pas 15 jours de suite. Ça va être trop. Je vais commencer par 8 jours. Son papa le prendra 15 jours. C'est-à-dire, c'est une immense intelligence.
Bien sûr.
De se sentir... Voilà, moi, je sais que je suis capable 8 jours. Et ça, c'est des choses que nous encourageons beaucoup, nous, dans notre cuisine des pâtes au beurre. De dire, voilà... Qu'est-ce que vous pourriez, où est-ce que vous vous sentez bien? Comment vous vous sentez bien? Comment on peut imaginer un aménagement pour que ça soit tenable, supportable et que le lien se construise tranquillement? Donc ça fait partie du témoignage d'Anne-Sophie. Mmh.
Katia vous demande s'il existe des profils de mères plus enclins à exprimer ce regret.
Pas particulièrement. En tous les cas, il y a des contextes. Je pense que notre modernité est un contexte qui accentue les regrets chez les mères parce que c'est dur à porter. Le fardeau est immense. La nécessité d'être absolument parfait partout est véhiculée dans les réseaux sociaux, mais aussi dans nos magazines. Et que ça, c'est quelque chose qui est sur nos trois, quatre dernières décennies. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Après, structurellement, donc ça, c'est contextuel. Structurellement, il y a des femmes qui sont plus facilement débordées par la responsabilité. Elles sont très, très vite envahies. Et ça, en effet, on pourrait parler d'un profil, mais ça voudrait dire qu'il y aurait comme ça des catégories, ce que je n'aime pas trop. Mais en effet, il y a des femmes qui sont plus vite envahies que d'autres. Là encore, si elles le savent, si elles savent le reconnaître, ça leur permet d'aménager.
Là, vous parlez de se sentir envahie. On parle aussi de la privation de liberté. Est-ce que ce n'est pas aussi pour des femmes qui sont très indépendantes, habituées à fonctionner au gré de leurs envies, que ça peut paraître comme vraiment une privation de liberté?
Oui, mais quand on est envahi, on est figé. On n'arrive plus à exprimer sa liberté et son autonomie. Donc, du coup, il y a une espèce de d'immobilité qui s'installe et qui est tout à fait contraire à ce qu'avait imaginé cette femme dans sa vie de mère. Elle ne pensait pas du tout qu'il y aurait de la privation de cet ordre-là. Donc, en effet, vous avez raison de pointer que cette question de la liberté, de l'autonomie, de pouvoir aussi construire son destin de femme, tout d'un coup, elles se disent « Ah non, mais là, je suis à l'arrêt, ce n'est pas possible.
Ouais. »
Et ce sentiment de regret ou cette désillusion, ça peut passer, non?
Bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est là où le psychisme est incroyable. Je sais, on ne l'aime pas. On n'aime pas l'inconscient. Moi, je le trouve absolument formidable parce qu'il est en effet parfois casse-pied, mais il est tellement malléable. Et on peut tellement le faire bouger. Alors, bien entendu, aller pouvoir consulter, ça en fait partie. Hein. Là encore, de savoir prendre soin de soi. Aller voir un psy, ce n'est pas parce qu'on est fou, hein, on va le redire encore une fois. Hein, c'est parce qu'on prend soin de soi.
Il y a de moins en moins de monde qui pense ça, non?
J'aimerais que vous ayez raison.
Mais j'ai souvent raison.
Non, mais là, on dépasse ton nom à Benjamin Muller.
Une certitude.
Souvent, mais pas tout le temps.
Mais il veut me faire plaisir, peut-être.
Oui, c'est ça. J'aime bien flatter les gens en face de moi. Non, il y a de moins en moins. J'ai quand même l'impression.
C'est les anciens, je pense.
Ouais, peut-être.
Bon. Oui, enfin, quand même, encore aujourd'hui, on dit non, je vais quand même pas aller voir un psy.
Je suis pas fou,
en tous les cas, je vais y arriver.
Ouais.
Petit soldat courageux. Moi, je dis toujours, ne restez pas tout seul, jamais, quelle que soit la raison. Peut-être que ça sera trois fois rien, peut-être que vous serez venu juste prendre un café au pâte au beurre. C'est pas grave, ça valait le coup de passer.
Bien sûr. Alors, Benoît vous dit, ma femme m'a confié qu'elle regrettait d'avoir eu nos trois enfants, je ne partage pas ce sentiment. Comment l'aider et l'accompagner?
Bah déjà, si Benoît se pose cette question-là, c'est qu'il est déjà capable d'entendre que sa femme exprime un sentiment que lui ne ressent pas. Donc déjà, en effet, c'est une aide et c'est aussi une ouverture à ce fameux prendre soin de soi. Donc il peut l'aider en discutant avec elle, mais comment je pourrais aménager notre quotidien pour que tu te sentes mieux ? On parlait de liberté tout à l'heure.
Oui.
Mais je ne sais pas, est-ce que le soir, tu as besoin de sortir, d'aller voir tes amis, de rester plus tard au boulot, de partir en séminaire
Prendre du temps pour toi.
Voilà, prendre du temps pour toi. Je suis là. Moi, personnellement, je me sens bien là-dedans. Et ça, c'est une chance. Parce que si on avait les deux qui étaient dans le regret, c'est un peu compliqué. C'est une chance. Et du coup, elle pourra prendre appui sur lui pour pouvoir, elle, exprimer ce qu'elle a le sentiment d'être trop réfrénée à ce moment-là.
Merci beaucoup à Sophie Marinopoulos et merci à Anne-Sophie d'être venue se raconter à Agathe Le Caron. Voilà, c'est la fin de ce podcast des maternelles. On se retrouve demain, mercredi, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, mardi. Demain, mercredi, pour l'émission La Maison des maternelles sur France 2. Et puis sinon, quand vous voulez, en podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Ciao tout le monde.